Un micro à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. Bonjour à vous et à ceux qui commencent à connaître le principe de cette émission de reportage qu'est Un micro à la dérive. Aujourd'hui, on apporte le dernier chapitre de la série consacrée au système Uber Eats. Rappelez-vous, la première émission donnait la parole au coursier à vélo d'Uber Eats. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux nouveaux coursiers qui circulent non plus à vélo mais en scooter, ainsi qu'à un commerçant qui nous avait passé un contrat avec Uber Eats. Aujourd'hui, nous passons de l'autre côté, c'est-à-dire que nous donnons le micro à une universitaire rennaise, maître de conférence à Rennes 2, et qui s'intéresse tout particulièrement, et de façon critique, à cette plateforme numérique de l'économie collaborative. Pour terminer, le patron de Pianeta Pizza, une pizzeria qui est située à La Nester, vous expliquera pourquoi il n'a pas été séduit par Uber Eats. Mais tout d'abord, écoutez cette info.
Seulement à 2 euros, je vous propose d'écouter l'un des livreurs venu exprimer sa colère.
C'était important pour nous d'être là, c'était pour faire comprendre à Deliveroo qu'on est mécontent. On est mécontent de la nouvelle grille tarifaire qui nous a été imposée, qu'on n'a pas demandé, malgré le mail qu'ils nous ont envoyé. Je ne vois pas d'où ils ont sorti de tels chiffres. Soi-disant 70% des livreurs étaient d'accord pour cette nouvelle grille tarifaire, ce n'est pas vrai. On n'a pas été. On m'a jamais posé aucune question concernant cette nouvelle grille. Et donc on est là pour un retour, enfin pour avoir une course minimum. Parce que là, il n'y a pas de course minimum. On est dans l'inconnu en fait. Quand on sonne, on ne sait pas si on va être payé 5 euros, 2 euros. Avant le minimum était à 5 euros, 5,75 €. C'est très bien. Après, ça a baissé à 5,20 €. Ça s'est stabilisé pendant un an et demi à 4,70 €. On avait fait une petite manifestation il y a un an. On s'était fait entendre, c'était pas mal. Et là, tout d'un coup, on passe de 4,70 € minimum à 2,70 €. Donc là, c'est plus possible. Oui, c'était pas pris en compte. Donc ils nous disent, les nouvelles courses seront payées plus au vol d'oiseau, mais au kilomètre. Mais parfois, on va attendre dans un restaurant 15-20 minutes pour être payé 2,70 €. Je trouve que non, c'est pas possible en fait.
Autre revendication pour les livreurs, c'est le temps d'attente au restaurant qu'ils réclament d'être payés désormais. Les livreurs réclament d'être payés ce temps d'attente qu'ils attendent généralement entre 30 minutes et 1 heure dans les restaurants. Voilà les réclamations donc des livreurs, des livreaux qui sont pour le moment ici à Saint-Ouen, mais qui ont prévu d'autres opérations coup de poing durant la soirée.
Merci beaucoup David Khalifa en direct de la mobilisation des livreurs de Deliveroo du côté de Saint-Ouen en région parisienne.
Alors, un micro à la dérive est à la rencontre d'experts et aujourd'hui on a voulu donner la parole à Anaïs Henegel. Anaïs Henegel, vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Rennes 2 et c'est à ce titre que je vous ai contacté pour avoir un regard plus critique sur la question du système économique Uber Eats. Alors, je vous laisse d'abord nous expliquer qui sont les économistes atterrés.
Oui, alors les économistes atterrés, c'est une association d'économistes. Qui s'est constitué pour avoir un regard effectivement, comme vous l'avez dit, plus critique sur le système économique actuel, pour donner un peu d'autres perspectives, d'autres manières de voir le monde social et économique actuel. Voilà.
D'accord. C'était créé à l'occasion des subprimes il y a à peu près 15 ans.
Oui, c'est ça, juste après la crise de 2009. En fait, c'est un collectif d'universitaires, principalement d'universitaires chercheurs en économie, enseignants-chercheurs et donc aussi enseignants en économie.
La première question est relative à ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. C'est un terme qui a été créé en 2014 par Maurice Lévy. Comment ça marche?
Alors, l'ubérisation, elle a plusieurs caractéristiques. On peut en distinguer en fait quatre. Hein. Donc d'abord, l'ubérisation, elle repose sur un lien marchand. Donc ce n'est pas par exemple de l'économie du partage, hein. Ce n'est pas par exemple le coach surfing où je suis sur un canapé chez quelqu'un, etc. Donc il y a bien une idée de lien marchand, d'argent qui est échangé. Deuxième caractéristique, il y a donc un caractère numérique, donc notamment souvent c'est la technologie GPS qui est utilisée. Voilà, donc deux premières caractéristiques. La troisième caractéristique, c'est que il y a une plateforme qui décide vraiment qui appartient à la communauté. Donc c'est le cas par exemple de la plateforme Uber, donc qui décide un peu voilà quels chauffeurs vont faire partie ou non de la communauté. Et enfin, la quatrième caractéristique, c'est que la plateforme, elle se rémunère par le biais de commissions, voilà, sur les échanges qu'elle permet.
Alors, je voulais approfondir la question, parce qu'on peut parler aussi d'économie collaborative. Est-ce qu'il y a une différence entre l'économie collaborative et l'ubérisation?
Oui, mais donc voilà, exactement. Très bonne question. En fait, l'économie collaborative, elle est en effet plus large. Hein. Elle comprend en fait aussi des échanges qui ne sont pas marchands, comme par exemple le coach surfing dont je parlais. Oui. Donc l'économie collaborative, c'est plutôt d'ailleurs une branche qui est essentiellement non marchande, alors que l'ubérisation, c'est bien fondé sur des échanges réels monétaires, hein, bien sûr.
Mais on va prendre un exemple concret. La ruche qui dit oui, c'est un exemple de plateforme qui met en lien des producteurs et des clients. Et pourtant, la ruche qui dit oui prend une commission. Mais là, on parle d'économie collaborative. Donc finalement, ce n'est pas forcément aussi clair le distinguo entre les deux.
Ben oui, non, c'est entièrement vrai. C'est pas forcément aussi clair. Vous avez raison. D'ailleurs, Uber joue bien là-dessus. Hein, joue bien sur ce côté pas si clair finalement, puisque Uber met aussi en avant le côté l'ubérisation sert à mettre en lien des gens qui en ont besoin, etc. En réalité, bon, la différence, elle est que Uber et ses compagnies sont des sociétés qui génèrent un maximum de bénéfices. La ruche qui dit oui, effectivement, a également un objectif de bénéfice, mais on peut plus la faire rentrer dans une économie, mettons, collaborative, enfin, à but, entre guillemets, moins lucratif, même si l'expression n'est pas très, très bien trouvée.
D'accord. Anne Hennegel, quelles sont les transformations notables dans la relation entre les travailleurs et ces fameux employeurs qui sont des plateformes numériques?
Oui, alors, en fait, la transformation, elle est assez clair et en même temps il faut effectivement l'expliciter. Donc ce qui se passe avec l'ubérisation, c'est que avec ce mouvement général, c'est que en fait les travailleurs qui travaillent pour les plateformes type Uber Eats ou Uber, etc., ne sont pas en fait des salariés, donc ils n'ont pas de contrat de travail directement avec les plateformes. Ils sont en fait des micro-entrepreneurs. Donc concrètement, en fait, on n'a pas une entreprise qui emploie par exemple 1000 salariés. On a en fait 1000 auto-entrepreneurs qui tous ont des contrats de prestation de services avec l'entreprise. Donc ce ne sont pas des contrats de travail. Et ça change beaucoup de choses.
Je vous ai appelé Anne et en fait c'est Anaïs Hennegel.
Oui,
il faut me rectifier, n'hésitez pas. Et avec cette généralisation du statut d'auto-entrepreneur, à quoi peut-on s'attendre?
Oui, alors en fait, la question en effet apparaît souvent. En fait, quand on parle d'ubérisation, il y a souvent des gens qui nous disent bon, c'est très bien, puisque par exemple, on aura plus le choix de travailler comme on le souhaite. Par exemple, de pouvoir, parce que Uber met beaucoup en avant, par exemple, la liberté des chauffeurs, hein, de pouvoir, ou des livreurs à vélo, de pouvoir, comme ils le souhaitent, choisir leurs horaires de travail. Alors, en fait, nous on voit plusieurs conséquences, hein, à ce changement, en fait, d'un contrat de travail vers un contrat de prestation de service. D'abord, la première conséquence, finalement, hein, c'est que les revenus des livreurs ou les revenus des chauffeurs, ils sont donc discontinus. Donc ils sont incertains, par exemple ils peuvent changer du jour au lendemain, puisque c'est vraiment une rémunération à la tâche. Donc s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de rémunération. Donc ça dépend aussi beaucoup de la demande, puisque s'il n'y a pas de demande à un moment donné, eh bien il n'aura pas de rémunération. Et ça, donc on a beaucoup de cas, hein, de livreurs ou de chauffeurs qui passent des heures à attendre sans avoir de travail finalement.
Ouais, oui.
Donc, c'est pas un revenu fixe comme on a l'habitude pour les salariés. Donc ça, c'est une conséquence importante. Il y a aussi la conséquence la question des droits sociaux qui sont très inférieurs pour les travailleurs de l'ubérisation. Donc par exemple, ils n'ont pas accès aux congés payés, ils n'ont pas accès à l'assurance chômage, leur assurance maladie, elle est moindre. Par exemple, ils ont un délai de carence qui est supérieur, etc. Et leur cotisation retraite également, elle est moindre que celle des salariés entre guillemets classiques. Donc ça, c'est une deuxième conséquence. Donc en fait, donc ça, c'est vraiment au niveau des individus, hein, si on veut. et au niveau donc, de la société en général, il y a deux questions en fait principales qui sont posées par l'ubérisation. C'est d'abord donc comme je l'ai dit, donc les droits sociaux ils sont inférieurs. Donc d'abord la première question c'est comment on pourrait faire pour attacher des droits à ces travailleurs eux-mêmes. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils rejoignent un peu les droits sociaux de la majorité. Donc ça en fait une des solutions viendrait peut-être à attacher des droits sociaux directement à la personne, à l'individu et non pas seulement au travail, comme c'est le cas aujourd'hui beaucoup en France. Par exemple, les salariés en général. Leur assurance retraite elle est liée à leur travail, elle n'est pas liée à leur personne eux-mêmes directement. Et donc la deuxième question ce serait comment faire pour faire respecter le droit du travail, puisque les entreprises comme Uber par exemple jouent un peu sur certaines failles, puisque par exemple elles ne respectent pas forcément le SMIC horaire, pour prendre un exemple très très concret. Donc elles ne respectent pas le SMIC horaire puisque en fait elles ne considèrent pas les travailleurs comme des salariés. Donc rien ne les oblige à respecter une rémunération minimale comme pour n'importe quel autre salarié.
Le 28 novembre 2018, hein, dernier, donc il n'y a pas très longtemps, la Cour de cassation de Paris a jugé que les livreurs coursiers enregistrés comme auto-entrepreneurs étaient des salariés. Parce qu'en fait, il y a une boîte à Paris qui avait, enfin je ne sais plus si c'était Tech-Easy ou bien...
C'était Tech-Easy, oui.
Voilà. Ah ouais. Et donc, ils ont reconnu donc, ces coursiers étaient susceptibles de bénéficier de tous les droits propres à ce statut. Est-ce que c'est un début d'une modification du Code du travail qui sera en faveur de ces... de cette génération d'auto-entrepreneurs.
Oui, bah en tout cas c'est ce qu'on espère, hein, c'est ce qu'on espère vivement, c'est-à-dire qu'en effet, les entreprises de type Uber devraient, à mon sens, et pour les documents statutaires, être reconnues comme des salariés, non plus comme d'auto-entrepreneurs. Alors, bah, c'est un mouvement assez général, donc il a commencé déjà en fait dès juin 2015, mais ça c'est en Californie, hein, un tribunal avait déjà reconnu une conductrice Uber comme salariée, donc déjà aux États-Unis, qui est en plus un État, enfin, aux États-Unis, donc qui est un pays assez considéré comme plutôt libéral, hein, donc ouais. Ça a commencé déjà à ce moment-là. Et par exemple, aux Pays-Bas, plus récemment, un tribunal a fait reconnaître 2000 coursiers de Deliveroo comme salariés. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'ampleur. Donc la France s'inscrit effectivement dans ce mouvement-là. Donc oui, on a d'autres décisions un peu plus récentes, hein, qui vont dans le même sens. Donc oui, effectivement, on peut espérer, hein, qu'à l'avenir, effectivement, les entreprises comme Uber ou beaucoup d'autres, hein, soit enfin Deliveroo, etc., soient obligées d'embaucher en fait des travailleurs en tant que salariés et non plus simplement en tant que prestataires de services.
Ça serait une bonne décision, mais pourtant, au vu des contacts que j'ai eus avec les coursiers à Lorient, donc là je parle de Lorient, la plupart des coursiers que j'ai eus au micro étaient plutôt favorables au statut d'auto-entrepreneur parce qu'ils préféraient gérer leur emploi du temps, gérer leur rémunération, quitte, comme vous le disiez d'ailleurs, à tomber dans des dérives d'emploi du temps assez dingues. Par exemple, un m'expliquait qu'il commençait vers 10h du matin et terminait pas avant d'avoir 80-100 euros par jour, donc il terminait à minuit, 7 jours sur 7. Donc en fait, j'ai pu voir aussi ailleurs dans un sondage que 64% des Français avaient plutôt une bonne image de ce qu'on dénomme comme uberisation. Donc en fait, on sent qu'il y a un mainstream de la pensée unique sur ces sujets-là et les politiques n'ont pas l'air de prendre la chose en main.
Ben oui, alors effectivement, je vais revenir sur ce que vous avez dit. En fait, il y a effectivement des études sociologiques, hein, qui posent la question de pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que par exemple, les coursiers sont devenus coursiers, ou pourquoi est-ce que les chauffeurs Uber deviennent chauffeurs Uber. Alors ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a différentes raisons, mais donc, comme vous l'avez dit, c'est une population effectivement qui en effet ne sont pas forcément attirés par un modèle salarial classique, donc où on travaille de 8h à 18h par exemple pour gagner un revenu mensuel net fixe, avec quelques primes, mais néanmoins avec une base fixe, notamment parce qu'en fait, il s'agit surtout d'une population qui est assez jeune et sans enfants. Donc ça permet généralement de supporter assez bien la discontinuité de revenus et les horaires atypiques, puisque forcément il faut pouvoir aussi revenir chez soi. Il faut être capable de revenir chez soi à minuit sans avoir des charges, par exemple, familiales ou autres. Donc, en fait, une population assez spécifique, hein, qui supporte donc ces longues semaines, ce travail flexible, ces revenus discontinus, etc. Donc, la précarité de l'emploi, elle est vue assez différemment par, euh, par ces jeunes. D'ailleurs, pour avoir une anecdote personnelle, effectivement, dans mes cours de licence, donc à l'université de Rennes 2, je commence toujours par demander quelle est l'opinion des étudiants sur l'ubérisation. Et en effet, la majorité des étudiants sont très favorables à l'ubérisation. Et eux-mêmes envisagent d'ailleurs d'y avoir recours en tant que, à la fois consommateur, bien sûr, mais également en tant que travailleur. Donc effectivement, c'est une population plutôt jeune, étudiante, en charge d'un revenu alternatif, je dirais, pas forcément d'un vrai revenu. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que très, très rapidement, au bout de 3 à 5 ans, la majorité des auto-entrepreneurs cessent leur activité. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est vu visiblement comme plutôt de courte durée. Et ça, je ne sais pas si c'est le cas à Lorient, mais c'est ce qu'on observe au niveau national. Il y a une enquête de l'INSEE qui est parue récemment et qui l'expliquait très bien.
Parmi les 10 conseillers que j'ai pu interroger, il y en a 3 ou 4 qui ont vraiment des compétences sportives, hein, qui roulent beaucoup, et pour qui ce n'était pas un problème d'avoir ces emplois de temps, ces distances à parcourir. Et par contre, ils m'expliquaient bien que leurs collègues étaient plutôt en temps partiel. Donc les premiers étaient prêts à travailler à temps plein, mais comme vous dites aussi, pourtant ils étaient en couple, hein, ils avaient des enfants, mais pour eux c'était un métier.
D'accord, c'est rare, d'accord.
Et les 3/4 autres, c'est plutôt au beau jour, quand j'aurai peu de temps, je fais ça, ça m'assure 300-400 euros, c'est toujours mieux que rien, quoi.
Tout à fait. Oui. Alors si je peux juste rebondir là-dessus, effectivement, le c'est mieux que rien, c'est un argument qu'on entend, qu'on entend très, très souvent. On peut faire le parallèle avec, l'ubérisation, c'est un peu un travail à la tâche. C'est-à-dire qu'on est payé, si on fait plus de courses, etc. C'est un peu un travail qui peut ne jamais s'arrêter, parce que plus, comme vous le dites, on peut commencer à 10h et s'arrêter à minuit pour avoir une somme fixe. Et en fait, on peut faire un parallèle avec ce qui se passait au 19e siècle, où le droit du travail n'était pas tout ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, le travail à la tâche était très très répandu. Et finalement, les gens avaient le choix entre ce travail-là à la tâche ou pas de travail du tout, c'est-à-dire ou pas de rentrée d'argent du tout. Et là, quelque part, on revient un peu dans ce système-là, où finalement, c'est soit ce travail-là, qui peut d'ailleurs en plus avoir des attraits, hein, pour, comme vous le dites, des jeunes gens, par exemple, sportifs, etc. Et pas de travail du tout, donc plutôt un statut de chômeur, parfois même d'assisté, hein, comme la société les pointe du doigt à ce titre. Donc, très rapidement, on va avoir tendance à penser que c'est vraiment très bien ces modes de travail-là.
C'est après les Beatles.
Effectivement, si on en est, entre guillemets, réduit à ça, c'est parce que le travail salarié de qualité en vient à manquer, finalement.
Anaïs Sénégal, on va faire une petite pause musicale. Vous connaissez les Beatles ?
Oui, bien sûr.
Ils ont chanté 2 versions du morceau Revolution. Revolution, le premier, c'était « Vous pouvez compter sur moi », je participe. La deuxième, c'est « Vous pouvez compter sur moi ou pas ».
Evolution. j'avais rendez-vous avec le patron de Pianeta Pizza, qui se trouve à Lanester, qui est l'un des commerçants, et non pas l'un des rares, mais l'un des commerçants, parce que grosso modo, il y a 35-40 restaurants à Lorient, Lanester, qui ont fait le choix de travailler avec Uber Eats, et il y en a autant qui, par contre, travaillent toujours en indépendant. Donc, nous voilà, on va fermer le portail. Bonjour. Voilà, on est un peu à l'abri. Donc, on est à Pianeta Pizza. On va s'approcher un petit peu, comme ça. Alors, je vous laisse vous présenter.
Alors, je suis Samuel, j'ai 27 ans et je tiens Pianeta Pizza depuis 3 mois maintenant.
Oui. Vous avez combien de livreurs ?
On a 3 livreurs, 2 en semaine et 1 supplémentaire le week-end.
Alors, j'ai interviewé auparavant un commerçant qui vend des sushis, puis qui lui a fait le choix de passer par Uber Eats. Son activité commence. Vous, on ne vous a pas contacté encore ?
Non.
Non. Est-ce que vous seriez intéressé par le service Uber Eats, hein?
Non plus, parce que j'ai déjà des livreurs qui attitrent à la boutique, oui, qui travaillent ici, qui sont présents. De plus, le système d'Uber Eats, ils prennent des marges assez importantes. Donc moi, c'est pas intéressant pour une affaire qui tourne bien, c'est pas intéressant.
Ouais.
Je pense que pour ceux qui débutent, c'est mieux pour une question de souplesse, plutôt qu'inclure du personnel, ceci, cela, mais après qu'on ait une structure un peu plus grande, c'est moins intéressant.
Quand on parle de structure plus grande, il y a par exemple Eat Sushi à Lorient, qui est un grand, qui a ses propres livreurs et qui pourtant travaille avec Uber Eats. Comment expliquez-vous ça ?
Peut-être pour toucher une clientèle autre qui passe par les applications Uber Eats et tout ça, pour être présent là-dessus.
Et vous en avez déjà parlé avec des commerçants, de ceux qui sont affiliés. Ouais. Est-ce qu'ils ont présenté leurs avantages, inconvénients ?
Oui, avec un ancien collègue et qui travaillait aussi ouvert une pizzeria et qui a commencé à travailler avec Uber Eats. Mais qui a arrêté pour prendre un livreur, en fait. Dès qu'il a pu, il a pris son propre livreur.
D'accord. Ouais.
Parce qu'il avait des problèmes par rapport au délai, il ne pouvait pas choisir les délais, donc il devait faire passer Uber Eats avant ses propres clients qui attendaient la boutique. Et par rapport aux marges, les pourcentages que prennent Uber Eats sont très importants. Et certains commerçants sont obligés d'augmenter leurs tarifs quand ils servent par Uber Eats par rapport à ce que prend Uber Eats en supplément.
Ouais, voilà. Mais comment, il y a quand même une chose à comprendre, c'est que quand vous travaillez avec Uber Eats, il y a l'avantage de pas d'acheter un scooter, cette lourdeur.
Ouais, l'un dans l'autre, mais je pense que ça revient quand même peut-être un poil plus cher par rapport à ce qu'ils prennent et à la quantité travaillée, c'est à inclure même dans l'organisation. Je pense que ça peut créer plus de complications.
Il y a autre chose qui m'a aussi intéressé, c'est que chez les livreurs Uber Eats, la plupart circulent en vélo et d'autres circulent en scooter. Donc ça fait penser à vos livreurs en scooter. Toutefois, les livreurs scooter doivent payer une licence de transport de moins 3,5 qui leur coûte à peu près 800-900 euros. Qu'en est-il des livreurs qui travaillent chez Dog & Pizza, Pizza Dupont, chez vous?
Ils n'engagent pas, ils n'ont pas engagé leurs finances, ils doivent être titulaires du BSR ou du permis et après ils peuvent travailler directement.
Alors, ce qui fait que finalement, un livreur qui travaille directement pour vous, Pianeta Pizza, n'a pas de licence de transport à payer, vous non plus.
Si il est titulaire du permis de conduire B ou du PSR, il peut livrer.
Alors que par contre, un livreur qui veut travailler comme auto-entrepreneur chez Uber Eats, lui devra s'acquitter d'une licence de transport qui va lui coûter à peu près 900 euros, grosso modo. D'accord. Et comment... on va donner un exemple. On va prendre votre menu, Pianeta Pizza. Alors, je regarde un petit peu. On va prendre la margarita, par exemple, à 40 cm, qui coûte 12 euros. Quand vous la faites livrer, vous la faites livrer à quel prix ?
Alors, en fait, là, c'est les tarifs de livraison. Ouais. Par contre, en fait, pour ne pas facturer les livraisons, on fait 50% sur la deuxième à l'emporter.
D'accord.
C'est ce système qui permet de ne pas mettre de hausse sur les livraisons. Par contre, en livraison, toutes les pizzas sont à ton plat. Que si vous venez chercher, la moitié de vos pizzas sont à moitié prix. Sur place.
D'accord. Et si par contre, moi je vous propose, travaillez pour moi, Uber Eats, combien vous serez obligé de facturer ? Vous avez déjà fait une estimation du surcoût ?
Je n'aurai pas les chiffres exacts, mais je sais que ça peut aller peut-être 2-3 euros supplémentaires pour vraiment avoir pour que le commerçant se dégage les mêmes marges que s'il fait le fait livrer lui-même.
On va reprendre l'interview avec Samuel parce qu'on se livrait quelques réflexions sur le système Uber Eats, avantages et inconvénients, notamment par rapport à des jeunes commerçants, enfin des commerçants qui commencent leur affaire. Alors, on t'écoute, Samuel.
Ouais, donc ce que je pensais, c'est que ça, en fait, Uber rajoute un intermédiaire qui prend une énorme partie du gâteau. Et du coup, les commerçants et les livreurs, eux, ne sont pas gagnants. Uber, avec sa puissance, peut se permettre de dicter les prix qu'ils prennent, les pourcentages qu'ils prennent, le matériel que les livreurs doivent avoir. Et c'est vrai que du coup, ça rajoute un intermédiaire qui, euh, qui a beaucoup de puissance.
Ouais. Et le matériel aussi que les commerçants doivent avoir, on parlait de la tablette qui avait un coût de 600 euros, avec l'avantage quand même d'avoir une publicité sur tout le pays de l'Orient, mais l'inconvénient d'avoir une charge supplémentaire à payer pour le commerçant. Vous pensez aussi que, après on se posait la question du salariat, de la rétribution des livreurs Uber Eats et de celle de vos livreurs, qu'est-ce que vous pensiez?
Ça peut induire une forme de précarité quand même. Parce qu'il n'y a pas de revenus de garantie, il n'y a rien du tout. Les gens sont obligés de s'engager financièrement pour, à travers les sacs, le matériel et tout ça. Donc, je trouve pas forcément c'est un bon modèle de société qu'on voudrait. Quoi. Tout ce qui est Uber, que ce soit les taxis, les Uber Eats et tout ça, la compagnie.
J'ai rencontré un tenant de pizza à Nantes qui a fait le choix étonnant de ne pas avoir de scooter, mais des voitures. Au motif que, finalement, il avait souvent des jeunes conducteurs qui n'étaient pas très expérimentés, qui faisaient un peu les foufous et qui provoquaient beaucoup d'accidents avec leurs scooters. Ouais. Vous avez aussi ce même retour, vous ?
Oui, même avec des conducteurs expérimentés, en moyenne, c'est un accident par an. C'est le fait d'être en ville, aux heures de bureau, tout le temps à circuler, c'est statistique. Hein. Ouais. Il y a au moins un accident, je dirais, grave par an.
Et alors, du coup, pour vous, c'est pareil, c'est un surcoût, c'est une charge ?
Si, oui, c'est une charge, c'est aussi un stress, quoi, de savoir si les personnes vont revenir intactes de livraison, mais... Ça fait partie du métier.
Mais là, on pourrait dire, si vous passez par Uber Eats, c'est pas un souci pour vous, c'est une délivrance.
On repousse le problème à quelqu'un d'autre, quoi.
Oui.
C'est encore un intermédiaire, et cet intermédiaire facture aussi ce risque.
Comment ça, il facture ?
Je pense que dans leurs conditions de vente, tout ça est pris en compte. Et comme les personnes, en plus, sont en temps indépendantes, après, elles peuvent se retrouver, elles n'ont pas d'arrêt maladie, elles n'ont pas de chômage ou quoi que ce soit, donc ça crée vraiment une situation de précarité.
D'accord. Mmh.
Sous un couvert d'indépendance.
Parmi vos connaissances, il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui sont revenus du système de livraison Uber Eats ?
Non, j'en connais qu'un seul qui a travaillé avec Uber Eats.
Lequel ?
C'est au Melting Pot à Lorient.
C'est quoi le Melting Pot ?
Une pizzeria également, ouais. Bah, un ancien collègue qui a travaillé avec nous ici à faire les pizzas, qui est dans sa boutique, et donc il a commencé avec Uber pour faire les livraisons.
Et lui, comme avantage, c'était d'avoir une meilleure publicité
C'est au début de la souplesse. Comme il n'avait pas forcément la trésorerie pour embaucher quelqu'un, prendre un scooter, un temps plein et tout ça, il a préféré travailler avec Uber Eats pour faire les livraisons au début. Et maintenant que son entreprise commence à tourner, il a pu embaucher quelqu'un pour faire les livraisons.
D'accord.
Donc c'était vraiment pour une période de transition. Quoi.
Merci Samuel. Et puis, bonne pizza, Pian et ta pizza.
Au revoir.
La série de reportages consacrée à Uber Eats est donc terminée, mais vous pouvez toujours l'écouter et la réécouter en passant par la grille des émissions sur radiorelease.net. Enfin, sachez toujours qu'il y a toujours une place pour ceux ou celles qui souhaitent faire des reportages. Vous pouvez m'envoyer vos messages à l'adresse suivante, @laposte.net. Et sur ce, merci et à très bientôt.